Le dimanche à Bamako, sommet de la francophonie. On leur a tout appris, marcher, écrire, manger, mettre des habits. Le dimanche à Bamako, sommet de la francophonie. On leur a tout appris, c'est sauvage, voilà comment ils nous remercient. Le dimanche à Bamako, avec moi, sommet de la francophonie. On leur a tout appris, ils ont tout gâché, ils veulent envahir notre pays. Avec moi, le dimanche à Bamako, sommet de la francophonie. Bon, bref, Thierry de Toulouse, je voudrais te saluer, monsieur Jacques Chirac, un fantastique verpé du colonialisme français. Bisous à tous.
Peut-être une petite explication dans le contexte actuel pour certaines personnes, savoir ce que c'est que d'avoir la peau blanche ou d'avoir la peau noire. Voilà, moi je m'appuie quand même sur un scientifique qui s'appelle Yves Coppens, qui nous a présenté une série de films qui sont sortis en DVD depuis sur l'Odyssée de l'espèce, et qui nous annonçait ceci. Nous venons tous d'une même famille qui arrive de l'Afrique, donc on avait la peau noire. Et au fur et à mesure des déplacements des populations, nos ancêtres, les Homo sapiens, se déplaçaient vers le nord. Et plus ils se déplaçaient vers le nord, plus la pigmentation de la peau s'éclaircissait pour laisser passer les rayons du soleil qui sont un besoin fondamental pour le développement du corps humain. Alors voilà, bon, c'est une explication d'Yves Coppens. C'est sûr, c'est pas Arthur, hein, c'est pas Ruquier, ça rapporte pas des millions, mais ça fait réfléchir. C'est Miloud de Choisy le Roi. Dans le 9-4, on réfléchit quand même aussi un petit peu, quoi. Allez, au revoir.
Il est des hasards de calendrier surprenants, mais qui laissent peut-être augurer qu'il faut garder l'espoir. Ainsi, aujourd'hui, samedi 3 décembre, s'ouvre le sommet France-Afrique. Le samedi 3 décembre, c'est aussi la Saint-François-Xavier. Amusant. Et oui, François-Xavier Verschave a combattu pendant des années, pendant 20 ans, la France-Afrique, a écrit de nombreux ouvrages là-dessus et a tout décrypté. Et on ne l'a pas oublié. François-Xavier Verschave. Samedi 3 décembre, la Saint-François-Xavier Verschave. Merci, monsieur.
Je vous appelle pour vous dire que le 5 décembre, nous nous rencontrons pour la troisième fois dans le repère des Amis de la Basse J'y suis, qui se trouve à Montpellier, rue du Faubourg Figuerolles, comme d'habitude, au café La Pleine Lune. Donc, ben, venez nombreux, on a plein de projets, bibliothèques, informations parallèles, etc. Et dans l'esprit de l'émission, des amis de l'émission là-bas, si j'y suis. Donc, voilà, donc rendez-vous le 5 à La Pleine Lune à Montpellier. Au revoir.
Ça marche très bien, les repères des Amis de la Basse J'y suis. Ça continue, ça discute, ça fait des projets et ça prépare le grand soir. Aujourd'hui, une heure dédiée à tous ceux qui pensent que la génération 68, c'est rien que des néo-riacs, des vieux qui ont trahi les rêves de leur jeunesse. Eh ben, c'est vrai. C'est horriblement vrai, mais il y a des exceptions. Peut-être pas des exceptions, mais au moins une, Peppino Giuseppe Impastato, dont le frère, les amis, les voisins nous ont raconté l'histoire en Sicile, oui ça se passe en Sicile, à Cinesi, près de Palerme, et depuis ce reportage, un film a été réalisé sur la vie édifiante et héroïque de Peppino Impastato, combattant contre la mafia, mais qui avait illustré le fameux proverbe mafieux « Mieux vaut un jour de lion qu'un siècle de mouton ». Voilà, c'est jusqu'à 18h dans la Basse J'y suis. Autre chose qui n'a rien à voir, c'est un message personnel que j'adresse aux habitants de Pavillon-sous-Bois. Les obsèques de Marguerite Mermet auront lieu demain à 14h à l'église des Pavillons-sous-Bois, dans le 93. Voilà, on retrouve Peppino et auparavant d'autres messages sur le répondeur de la Basse J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, je voulais réagir au procès d'outrage envers notre sérénité sur les ondes depuis trop longtemps. Outrage à qui? Un magistrat peut-être, hein? Outrage à l'honneur de la justice aussi. Enfin, justice, moi je préférerais qu'on parle d'appareil judiciaire. Justice, c'est un peu comme amour, quoi. Ce sont des termes vraiment, vraiment trop galvaudés. Autre terme repris en boucle par la presse depuis quelque temps, exceptionnel. Ouais, sans plus de précision. Quoi d'exceptionnel ? L'erreur ? Malheureusement, non. Le mauvais fonctionnement de la justice ? Ben, malheureusement, non. Non plus. La couverture médiatique ? Ah, ça, peut-être, ouais. On a eu les disparus de Lyon, les Mourmelons et autres allègres. L'exception, moi, je la vois dans le nombre, ou dans les nombres. Hein. Nombre de victimes, nombre d'accusés, nombre d'années de détention provisoire. Un exemple, dans ma région, il y a vraiment un pauvre homme qui s'est fait accuser de 3 meurtres, c'est pas rien. Personne n'en a parlé, ou si peu, du triple meurtre du Hausse. Et la presse en a encore moins parlé quand les tests ADN l'ont blanchi, c'est une quinzaine d'années après. Entre-temps, l'homme avait été condamné à 7 ans de prison pour le meurtre de sa femme, de sa belle-sœur, de son beau-frère. Mais le pauvre gars était au travail, et on ose parler d'erreur. Enfin, de toute façon, 7 ans pour 3 meurtres, c'est peu. Surtout qu'il les a fait dehors, en plus. Juste une interdiction de séjour dans sa région. La justice devait avoir de sérieux doutes quand même quant à sa culpabilité. Au bout du compte, l'homme a été blanchi, innocenté, il n'avait tué personne. Mais la justice, elle l'a vraiment tué. Et pour une affaire tellement simple, tellement claire, il n'avait pas à se tromper. Le beau-frère, très vraisemblablement, a tué sa femme, sa belle-sœur, et puis ensuite s'est donné la mort. Mais pas de problème, pas de responsable, pas de coupable. Juste un petit article dans la presse régionale après les tests ADN. À outre, là, il y a du chiffre au moins à faire. 17 accusés, 13 acquittés, et combien de lecteurs et d'auditeurs? C'est drôle cette loi du nombre. Enfin non, non, finalement, c'est vraiment pas drôle.
Resto du cœur, SAMU social. Mais quand on veut combattre la précarité, faire reculer la pauvreté, aider les plus démunis, il n'y a pas de pire erreur que d'entretenir leur résignation. Alors fermez les Restos du cœur.
Salut à tous, Pascal Dumont. Il était une fois un intellectuel tellement réactionnaire que même le Nouvel Observateur s'en était aperçu. Ciao.
100 ans de laïcité, ça se fête. Ce 9 décembre 2005, nous commémorons le centenaire d'une des lois essentielles de la laïcité, la loi de 1905. C'est l'occasion de raviver la mémoire commune, de réaffirmer et de défendre un des principes fondamentaux de la République. L'association Citoyens Unis invite à une promenade dans Châtenay-Malabry, où ce moment historique est d'autant plus présent que ses principaux acteurs y ont leur plaque de rue ou leur place. Promenade en lumière, accompagnée de lecture de textes. Vous pouvez apporter bougies, lampes de poche, lampions, lampes à pétrole. Retrouvons-nous vendredi 9 décembre à 18h devant l'école Jean Jaurès, avenue de la Division Leclerc, pour rappeler la mémoire du brillant défenseur de l'école laïque et de ses instituteurs. Puis rue Francis de Pressensé, protestant qui a joué avec Jaurès un rôle essentiel dans la rédaction des principaux points de la loi de 1905. Ensuite, les rues Édouard Vaillant, délégué à la Commune de Paris, qui fait ouvrir dès 1871 des écoles laïques, et Aristide Briand, qui est instigateur et rapporteur de la loi devant l'Assemblée nationale, avec inauguration de la place de la laïcité. Détour par la rue Marcel Samba, qui en tant que député a voté cette loi. Enfin, la rue Marcel Bonja, l'institutrice fortement engagée pour une école laïque et populaire dès le milieu du 19e siècle et soutenue par Victor Hugo. Et la place Jean Alemann, libre penseur et écrivain des mémoires d'un communard. À l'issue de cette balade historique, nous nous retrouverons vers 19h autour d'un verre, les patrons sur ce que nous pouvons faire tous ensemble, acteurs de l'école publique et de la vie municipale, pour l'école laïque d'aujourd'hui à Châtenay-Malabry. Pour redonner à l'école publique laïque l'image et les moyens de l'excellence, pour qu'elle redevienne lieu de réussite et d'ascenseur social pour tous et dans tous les quartiers. Donc tous le 19 décembre à 18h à l'école Jean Jaurès de Châtenay-Malabry, pour que vive la laïcité. À bientôt, Daniel.
Flight number 2. Arriving from. Fronte dove c'è quella panchina.
Là en face où il y a le banc.
Mentre era seduto uno che leggeva il giornale.
Il y avait un qui était assis lire le journal.
Uno gira con la macchina, si ferma e l'ammazza lì.
Il y a une voiture qui tourne, lui passe devant, tire sur lui e le tue.
E lo uccide lì, scappa e lo lascia morto lì e lui rimane lì morto col giornale.
Ce messier en voiture s'échappe e le messier tué reste là assis.
La tête dans le journal.
Voilà. Oui,
images pour se mettre dans l'ambiance de ce petit patelin, petite ville qui s'appelle Chinisi. C'est en sortant de Palerme, en allant vers l'aéroport, c'est une rue. Une longue rue, toute droite, bordée de maisons identiques. La rue monte légèrement et en haut, il y a un palais. Aujourd'hui, c'est l'hôtel de ville et c'est sur cette place que nous nous trouvons avec Giovanni. Qui est Giovanni ? Giovanni a un frère célèbre en Sicile, célèbre à Palerme et encore plus ici à Chinisi. Son frère, c'est Peppino. Peppino Impastato. Peppino Impastato a été assassiné en 1978 par la mafia. Il est un héros de la lutte contre la mafia. Aujourd'hui, son frère Giovanni et sa mère, toujours là, Felicia, luttent pour la mémoire de Peppino Impastato. Ce qui est très particulier dans cette histoire, l'histoire de ce héros qui a lutté contre la mafia et les mafieux, c'est que son propre père était un mafieux. C'est cette histoire que nous allons évoquer dans la basse J'y suis sur France Inter, l'histoire de Peppino.
Quella lì di fronte, quella lì, numero 183-185, è la casa del famoso boss Gaetano Badalamenti.
E ce qu'il y a là-bas en face, au numero 185, c'est la maison de Badalamenti, le fameux mafieux Badalamenti.
Badalamenti, sì. Ça c'est sa maison?
Oui.
Non, non c'è nessuno, questa casa.
Ma non c'è nessuno.
Entre Badalamenti e ton frère, c'est quasiment vicino, face à face.
100 passi. Ci sono esattamente 100
pas à pied.
Il y a 100 pas de la maison du bourreau à la maison de la victime.
Dunque, sì, esatto. Vedi, deve stare attento a quello che ti dico io. Purtroppo in Sicilia le distanze sono molto brevi.
Il faut faire attention à ce que je t'ai dit. Malheureusement, en Sicile, les distances sont très courtes.
Non soltanto le distanze figurative.
Pas seulement les distances physiques.
Ma anche quelle métaphorique.
Mais aussi les distances métaphoriques.
Le distanze fra la vita e la morte.
Le distance entre la vie et la mort.
Fra il boia e la vittima, come
entre
diceva.
Entre le bourreau et la vittima.
On est très proche l'un de l'autre.
Esatto, sì.
La lotta contro la mafia e per la libertà dei bisognosi è stata lunga. A così come è lunga la lista delle nostre morti ammazzate delle mafiose.
Ora andiamo, ora ti faccio vedere una cosa.
Ci volete montrare
lì di fronte? Lì di fronte là c'era prima un bar.
Il y avait avant un café.
Un bar che era molto frequentato, questo bar di mafiosi.
Che était un café des mafieux. Un giorno il y a eu.
Cioè sono scesi di là armate con le pistole?
Il y a eu des gens armés qui sont descendus par là avec des pistolets.
Par là, de l'autre côté.
Sì. Sparano di là e invece di uccidere un mafioso, uccidono un'altra persona che non c'entrava niente.
Ces gens-là qui étaient en face, ils tirent sur ces mafiosi et à la place de tuer un mafioso, ils ont tué une autre personne qui n'avait rien à voir.
In questo posto qua.
Ici exactement.
Nel febbraio del 63.
En février 63,
hanno ucciso due persone.
On a tué deux personnes.
Due mafiosi.
Deux mafieux.
Hanno parcheggiato qua. Queste persone hanno parcheggiato qua.
Sono andare ici.
E dovevano andare in quel circolo a giocare a carte.
E il doveva si dirigere là-bas pour jouer aux cartes.
Sì. E il mandante di questo omicidio.
Le commanditaire de ce meurtre.
Era uno zio mio.
Était mon oncle.
Fronte dove c'è quella panchina.
Là en face il y a le banc.
Mentre era seduto uno che leggeva il giornale.
Il y avait un qui était assis lire le journal.
Uno gira con la macchina, si ferma e l'ammazza lì.
Il y a une voiture qui tourne, lui passe devant, tire sur lui e le tue.
E lo uccide lì, scappa e lo lascia morto lì e lui rimane lì morto col giornale.
Ce monsieur en voiture s'échappe et le monsieur tué reste là assis.
La tête dans le journal. Là, c'est juste une petite place dont on fait le tour. Là, on arrive près de la fontaine, une très belle fontaine d'ailleurs.
Une personne, un mafioso, che guardava qua i pesci, perché qua di solito c'erano prima i pesci.
Pendant che il mafioso était là, sì. Coudet, qui regardait les poissons qu'il avait trouvé qua ici, dans cette fontaine.
Sempre negli anni 60.
Toujours dans les années 60.
Uno ci va di dietro, così, con la pistola, gliela
il
punta qui.
Il arriva messier derrière, sur,
e lo uccide.
Il lui pointe le pistolet sur le dos e le tue.
E cade così con la testa in acqua.
E le mafioso tombe dans l'eau, avec la tête dans l'eau.
Questo è tutto il...
C'est la place sanglante, dis donc.
La piazza sanguinante, sì. Ma anche lasciata, non solo la piazza sanguinante.
Mais la rue principale aussi, hein.
Voilà l'ambiance à Tunisie. Si on redescend la rue, sur la gauche, le long de ces maisons identiques, on en remarque une sur laquelle il y a une plaque qui est apposée et qui raconte qu'ici a vécu Peppino Giuseppe Impastato, qui a été un jour de 1978 assassiné par la mafia. La mafia, c'est écrit en doré sur marbre sur cette plaque. Depuis que les amis de Peppino ont apposé cette plaque, eh bien, elle n'a pas été touchée. Et c'est un signe que le courage a dû, est valeureux, que ça marche, qu'on résiste. On va essayer de comprendre cette histoire avec Giovanni, que vous venez d'entendre, et la maman de Peppino, Felicia. Peppino était dans les années 70 un militant politique, et il a lutté contre la mafia, et c'était un confrère, il était un animateur d'une radio dans les années, la fin des années 70 en Italie. C'était une floraison extraordinaire de radio libre. Chacun faisait sa radio, chacun bricolait sa radio. Il y a eu des milliers de radios à travers toute l'Italie, et Peppino Giuseppe a utilisé la radio dans sa lutte politique contre la mafia.
Dunque, contemporaneamente lui in pratica, cioè faceva una, ora ti spiego, faceva una trasmissione satirica, no? In cui i mafiosi li ridicolizzava.
Il faisait une émission satirique où il mettait en ridicule les mafieux.
Ora, siccome i mafiosi ci tengono moltissimo al loro prestigio, sai, per loro è importante, vivono di prestigio, vivono dell'omertà, e non era una cosa che gli piaceva tanto essere ridicolizzati. In pratica tutto cinese si sentiva le onde pazze, la trasmissione delle radiofoniche, e rideva alle loro spalle. Ora, questo sì.
Il y avait cinesi entier qui rigolait des mafiosi, dei badalamenti, parce que Peppino s'est moqué d'eux. C'est quelque chose de très... très dur pour un mafieux qui tient beaucoup à son prestige, à son honneur, l'homme d'honneur qui s'est fait qui s'est rendu ridicule.
Et allora, e poi per esempio il Finazzo lo chiamava, siccome aveva una cava di perciare, no? Di Piacisco, lo chiamava Gio Percialino.
Il donnait des surnoms à tous les mafieux, des surnoms ridicules pour eux, voilà.
Et pendant combien de temps il a fait ces émissions?
Ma li ha fatti per circa un anno.
Il les a fait pendant à peu près un an entier.
Esattamente, era l'anno 1977, prima di morire. E 78 pure, alcuni giorni prima di morire lui trasmetteva dalla radio.
C'était surtout en 77-78 avant de mourir.
Badalamenti, celui qui habite à 95 pas de la maison où nous nous trouvons, qui habitait là, était un des plus féroces parrains de l'époque, de la fin des années 70, à un moment où la mafia dans cette région de Palerme et en Sicile se développait d'une façon formidable à cause du trafic de drogue. Et ce Badalamenti était un personnage très très puissant, mais presque aussi puissant que Badalamenti, il y avait le père, Monsieur Impastato, le père de Giovanni et de Giuseppe, et le mari de Felicia. Peppino a été assassiné, reste Giovanni et la maman qui est là dans ce fauteuil de noir vêtu.
Madame, on est un peu étonné de voir le panneau qu'il y a sur votre maison.
C'est
Bien sûr, ce panneau, un mot qui est le mot mafia, qui est un mot que les gens n'aiment pas prononcer ici, qui est un mot tabou.
Mais certo.
Certainement. Certainement qui dérange.
Comment vos voisins vous voient?
Prima erano un poco. Ora no.
Avant, ils avaient peu de, un regard un peu bizarre.
Tutte si avvicinano, mi conoscono, insomma.
Maintenant, les gens s'approchent, les gens
reconnaissent. Prima si avevano paura.
Avant, ils avaient peur.
Si.
Vous-même, vous êtes de quelle origine sociale?
Mio padre era un impiegato.
Mon père, c'était un employé.
Al municipio.
Alla mairie. Perciò.
La famiglia sua di idee liberale, antifascista, benestante.
C'est les familles qui vivaient bien avec des idées libérales contre le fascisme.
Et du côté de votre père, c'était quel genre de famille?
Mon père, c'était un commerçant, il venait d'une famille des commerçants.
Il padre di mio padre, mio nonno era allevatore.
Et mon grand-père, il était un éleveur. Voilà.
Et pratica, loro sono stati sempre vicini alla mafia, no?
Ils sont été toujours proches de la mafia.
Come cultura, come mentalità, come tutto.
Comme culture, mentalité, comme tout.
Qu'est-ce que vous appelez la culture et la mentalité de la mafia en quelques mots?
Cultura vuol dire omertà.
Ça veut dire loi du silence, omertà.
Vuol dire forma mentis de vita, cioè vivere in una certa maniera.
Vivre d'une certaine façon.
Che appunto sarebbe quella di farsi i fatti suoi, di vivere tranquilli, di. Possibilmente di fare carriera all'interno delle istituzioni.
Ça veut dire faire une vie tranquille, ne pas s'occuper des affaires des autres, suivre une carriera dans les istituzioni.
Raggiungere gli obiettivi anche, raggiungere qualsiasi obiettivo a scopo di commettere atti illegali.
Ils voulaient arriver à leur but, donc à faire leur carrière, même s'ils devaient se compromettre de quelque façon.
Est-ce que vous pensez que dans sa vie votre père a tué?
Ma questo non lo so. Comunque però credo che nella mafia si fa quello che si ordina. Può darsi che glielo abbiano ordinato pure di uccidere e che lui abbia ucciso.
Je sais pas si mon père a tué ou pas. Je sais seulement que dans la mafia on doit obéir aux ordres. Donc si on lui a ordonné de faire ça, il l'a fait.
Mais vous, est-ce que vous étiez au courant qu'il était un mafieux?
Certo, quando era signorina no, poi sposata sì, ma non mi interessava mai di quello che faceva, niente.
Bien sûr, quand niente. Avant de se marier, je savais pas qu'il était un mafioso. Après, je l'ai appris, mais ça m'intéressait pas.
Vous, est-ce que vous considérez que vous avez été une femme mafieuse?
Non.
Non, pas du tout.
Non è possibile, no.
Non, pas du tout.
Vous l'avez jamais été?
Non.
Même par complicité?
Non. Non esisteva.
Ça n'existait pas.
Io difendevo mes filles et basta.
Je défendais mon enfant et stop.
Est-ce qu'il faisait de la politique? Est-ce qu'il était engagé dans un parti politique?
Oui. Démocratie prolétarienne.
Démocratie prolétarienne, c'est-à-dire un parti marxiste d'extrême gauche.
Di estrema sinistra. Era un partito marxista di estrema sinistra. E siccome Peppino, fin dalla sua giovane età, ha nutrito un po' questa idea, ha sviluppato un po' questa idea, anche in reazione appunto di come viveva in famiglia.
Peppino, dès qu'il était petit, il a toujours eu ces idées un peu de gauche marxiste, peut-être par opposition à l'atmosphère qu'on vivait dans la famille.
Negli anni 60.
Dans les années 60.
Questo zio di cui parlavamo poco fa, che era il capo mafia, è stato ucciso nel 63, negli anni 60.
Il y avait l'oncle dont on parlait tout à l'heure, qui était un chef de mafia. Il a été tué dans les années.
Negli anni 60.
Dans les années 60.
Nel 63.
En 63.
Ouais, sì. È stato fatto saltare in aria. Con un'autobomba, è saltato lui in aria con la sua macchina.
Il è esplosé avec une voiture piégée.
Peppino era giovane, studiava, era il periodo del liceo.
Peppino était jeune, il était étudiant. Il était frappé par ça.
Sì.
Très frappé.
E lui ha detto queste frasi, queste parole che io gli ho sentito dire.
E il a dit ces mots que moi j'ai entendu lui dire.
È mai possibile che l'uomo si sia ridotto in questa maniera?
Est-ce que c'est possible que l'homme il s'est réduit de cette façon-là?
È mai possibile che questa è mafia?
Est-ce que c'est possible que cela c'est la mafia?
dato che questo è mafia, io per tutta la vita dedicherò tutta la mia vita nella lotta contro la mafia.
E se cela c'è della mafia, e allora j'ai dédié ma vie, toute ma vie contro la mafia.
E il padre non sopportava questa scelta di Peppino.
Le père, il supportait pas cette choix de Peppino.
Perché il padre, fin dalla tenera età, da piccolo, lo portava con sé assieme ai mafiosi. Abbiamo anche delle foto pure.
Parce qu'il l'amenait avec lui aux réunions des mafieux depuis qu'il était petit.
Depuis tout petit, son père l'emmenait aux réunions.
Abbiamo delle foto, ora pigliano
le foto. On a des photos, aussi, j'ai des preuves.
Poi dopo, non appena Peppino è cresciuto, piano piano si è staccato da questo ambiente, si è staccato dal padre.
Mais petit à petit, quand Peppino l'a grandi, il s'éloignait de son père et de ses réunions.
Dopo quello che è successo e che ho raccontato poco fa.
Et après ce qui s'est passé, l'attentat à son oncle,
Peppino incomincia a lottare contro la mafia, a parlare male dei mafiosi.
E Peppino comincia a lottare contro la mafia e a parlare male dei mafiosi.
Lui organizza un giornale.
Il organizza un giornale.
Un piccolo giornale locale.
Un petit giornale locale.
Lui era ancora minorenne, non aveva compiuto 21 anni quando lo butta fuori.
Il était encore mineur, il n'avait même pas 21 ans.
Peppino va a affittarsi una casa.
Peppino il va a louer une maison.
E va a stare da solo.
Il va a abiter tout seul.
Con molta difficoltà,
avec très grande difficulté,
pochi soldi,
très peu d'argent,
però lui preferisce vivere in questa maniera,
il préfère vivre de cette façon-là,
che stare con il padre,
que rester avec son père.
Mafia en Sicile, mais toujours lutte anti-mafia. Depuis que la mafia s'est développée, depuis un siècle et demi, plus d'un siècle et demi, il y a eu une lutte anti-mafia a toujours existé dans ce pays. Les paysans ont lutté, des ouvriers ont lutté, des partis politiques de gauche, il faut bien le dire, ou d'extrême gauche souvent, ont lutté contre la mafia. Peppino Impastato a lutté contre la mafia de l'intérieur de la mafia. Il la connaissait, c'est ce que nous dit son frère, puisque le père était un mafieux et qu'il était habitué à cette ambiance-là. Et ça semble très important. Falcone, le juge Falcone, était un Sicilien, était un palermitain et il connaissait parfaitement ce monde-là, cette culture-là, cet univers-là, et les mafieux, il les connaissait bien, et il disait toujours, il faut se mettre à la place d'un mafieux, se dire qu'est-ce qu'il va faire, et finalement, être de sa culture.
Ecco, questo era lui che parla.
Ça, c'est lui qui parle.
Alors, votre fils, sur cette radio, libre, attaquait sans cesse le parrain, e son proprio père, il attaquait aussi son proprio père, il dénonçait la mafia, c'est bien ça.
E certo, la mafia.
Bien sûr, il attaquait la mafia parce que lui plaisait pas.
Non ci piaceva.
Qu'est-ce qu'il disait par exemple?
Ma cosa diceva?
Che era merda, diceva questo.
Che certo.
Ecco, ce lo puoi dire, no, aveva paura a dirlo, merda, lui, cioè va per la
merda,
la mafia.
Il disait que c'était la merde, il disait que la mafia c'était la merde.
Non puoi dire, ma no.
Oui, on peut le dire, bien sûr. C'est le même mot en France.
Terribile.
C'était terrible.
Non aveva paura della morte sul ragazzo.
Della morte.
Il n'avait pas peur?
Niente, nessuna
pas
paura.
Pas peur.
Sì, sta attento Giuseppe, sta attento perché la mafia è terribile. Ma tu la pensi in questo modo, dice, bisogna farsi capire alla gente che cosa significa mafia.
Je disais, fais attention, Giuseppe, fais attention, parce que la mafia c'est terrible. Alors il répondait, mais il faut faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est la mafia.
Era un ragazzo sveglio, intelligente, era un fenomeno. Traduceva il latino senza vocabolario, addirittura.
Très intelligent, il traduisait le latin sans le vocabulaire, par exemple.
Era terribile.
Il était terrible.
Il avait quel âge à sa mort?
30 anni.
30 ans.
30 ans. Précis.
Oh, il y a sa photo sur le mur, là. Oh. Mais est-ce qu'il avait une fiancée? Est-ce qu'il avait.
Non, non.
Non,
non. Non pensava a niente, allo studio.
Il ne pensait à rien.
À la politica, à la mafia.
À la politique.
Et questo.
Et à la lutte contre la mafia. Mm-hmm.
Il sortait jamais ici, quand même. Il devait s'amuser un peu de temps en temps.
Ogni tanto andava a Milano.
De temps en temps, il allait à Milan.
Il était à Milano, mais tornava subito, parce que la tête l'aveva. Ai mafiosi.
Et je lui disais, reste à Milano, mais il rentrait tout de suite parce qu'il avait sa tête au problème de la mafia.
À vous personnellement, qu'est-ce qu'il vous disait votre mari, à vous?
Ma lei, cosa diceva suo marito, a lei?
Poi con mio marito non ci poteva chiacchierare, perché era troppo rabbio.
Après, je pouvais pas parler avec mon mari parce qu'il était trop... plein de rage. Il était un homme.
Non poteva, che mi metteva a discutere con mio marito. Non lo potevo fare.
Pas me mettre à discuter avec mon mari.
Non.
Je pouvais pas.
Non
lo
potevo
faire.
Con mio figlio sì.
Avec mi mon fils. Discutere. Je pouvais discuter. Con mio
marito non poteva
mon
essere enfant, propria. Quando suonava un campanello. Non aveva dire subito in bagno io.
Quand il entrait dans la maison, je devais aller dans la toilette.
Impaurita.
Cosa la peur?
La peur.
Attaccavo sempre Turil con suo figlio, sempre c'era
c'était
guerra, sempre c'era.
Des guerres, des guerres, des luttes avec son fils.
Che disperazione.
C'était une grande disperazione.
Disperata, terrorizzata, spaventata, tutte cose.
J'étais terrorisée, j'étais épouvantée. C'était tous les jours comme ça.
Ho lottato, vero? Ho lottato.
J'ai lutté, vraiment, j'ai lutté.
Poi mi ha tradito pure un po'.
Il m'a aussi trompé, un peu.
Guarda questa foto qua.
Ici, j'ai trouvé la photo dont on parlait tout à l'heure dans le bouquin. Sì. Regarde, ici, alors, il y a.
C'est Peppino.
Il y a Peppino.
Questo è Peppino. Questo è Peppino.
Celui, c'est mon père.
Questo è Badalamenti.
Celui, c'est Tano Badalamenti, le chef della mafia.
E tutti gli altri mafiosi.
E tout ça, c'est les autres mafiosi.
Peppino e mio padre erano nemici.
Peppino e mon père, ils étaient ennemis.
Però, quando la mafia decide, condanna a morte Peppino.
Mais au moment où la mafia condamne à morte Peppino, et alors
Badalamenti comunica a mio padre che Peppino deve essere ucciso.
Au moment où Badalamenti dit à mon père che Peppino il doit être tué.
Allora lui incomincia, cerca, in tutto scatta lì il fattore umano. Cioè dal profondo del cuore il padre dice no, un minuto, io sono un nemico con mio figlio, l'ho buttato fuori di casa, vi ho dato le massime soddisfazioni, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, però voi non lo dovete uccidere.
A ce momento là il se déclenche le facteur humain, le père, e donc il dit au chef della mafia non, arrêtez, on peut pas faire ça, moi je vous ai aidé, j'ai mis mon fils hors de la maison, je lui dis de se taire, mais on peut pas aller au-delà de ça.
Esatto. Scappa dall'Italia.
Il s'échappe d'Italie.
Votre père? Sì. Va negli Stati Uniti.
Il va aux États-Unis.
Se ne va appunto per cercare protezione altrove, all'estero, in America, con i mafiosi potenti, per proteggere il figlio.
Il part aux États-Unis pour chercher la protection aux États-Unis d'autres mafieux encore plus puissants que le chef Tano Badalamenti.
Esatto. Manca due mesi, un mese e mezzo, quasi due mesi, sta negli Stati Uniti.
Il est là pendant deux mois et demi.
Non appena lui torna dagli Stati Uniti,
quand il revient ici,
dopo circa 20 giorni,
20 jours après,
muore quasi misteriosamente in un incidente stradale.
Il meurt dans un accident de la route qui reste assez mystérieux.
In una strada illuminata di Cinisi, non è che
dans une rue assez éclairée de Cinisi.
Una macchina lo investe in pieno e lo lascia lì morto per terra.
C'est une voiture qui le prend et l'écrase au milieu de la route.
C'est un accident ou pas d'après vous? Qu'est-ce que vous... Quelle est votre conviction?
Io penso che fu un incidente.
Je pense qu'il s'agissait
d'un accident. Perché la donna si è fermata, perché era una donna che...
Parce que c'était une femme qui conduisait la voiture, elle s'est arrêtée.
Però io non ci credo molto.
Mais moi je suis pas très convaincu.
Allora, muore mio padre, giusto in questo incidente.
Donc mon père, il meurt.
È chiaro che Peppino resta senza protezione.
C'est clair que Peppino il reste sans protection.
Esatto, subito dopo che muore, appena muore mio padre, dopo alcuni mesi, circa 3-4 mesi, uccidono Peppino.
Et en effet, après que mon père il est mort, donc il y a plus de protection, quelques mois après, il tue Peppino.
Paschi la live li frunniginestre. Addio, addio, amore. Paschi si goie. La liva e paschi l'albero. Oh.
On est avec la famille de Peppino Impastato, Giuseppe Impastato, lutte contre la mafia. Il milite au sein d'un parti qui s'appelle, d'un parti d'extrême gauche qui s'appelle la démocratie prolétarienne. Il anime une antenne de radio. Il fait du cirque, du théâtre de rue avec ses copains contre la mafia dans ce petit patelin, de Chinizy. Il se démène, il s'agite et son père est un mafieux, un des plus grands mafieux de la région. Alors il y a cette relation entre le père et le fils. Le père à la fois engueule le fils, mais le protège, évidemment, surtout au moment où la décision est prise, et irrévocable évidemment la décision, par Badalamenti, le parrain, de tuer le fils. Le père va aux États-Unis pour essayer de trouver une protection en très très haut lieu. Il revient et lui-même est étrangement assassiné ou tué, en tout cas, un soir en sortant de sa pizzeria. En 78, quelques semaines plus tard, ce sera au tour de Peppino, Giuseppe Impastato, d'être tué.
Di 2000 a 3000 persone.
2000, 3000 persone.
Andare sotto l'abitazione del mafioso Tano Badalamenti.
Qui sont allés en bas de la maison du mafieux, du chef Tano Badalamenti.
E puntare col dito, tu sei stato l'assassino di Peppino.
E ils ont mis le doigt devant lui en disant c'est toi l'assassin.
Questa è stata una cosa straordinaria, molto bella.
C'était une chose extraordinaire, très très belle.
Non era mai successo in Italia una cosa del genere.
C'était jamais arrivé en Italie une chose pareille.
Bene, qui me lo Ma quanto?
Beaucoup de gens sont venus quanto ici aux funérailles, mais combien de fleurs ils ont
portées,
des drapeaux, des manifestes.
C'était la première fois que le peuple, que les gens osaient se révolter publiquement contre le crime organisé, contre la mafia ici.
Perché hanno ritenuto che Peppino andava difeso perché era...
Parce qu'ils ont pensé que Peppino... Il fallait qu'il soit défendu.
Perché la mafia ha cercato di infangare la sua memoria.
Parce que la mafia il a essayé de parler mal de sa mémoire.
Cercando di farlo passare per terrorista.
Parce qu'ils essayaient de faire croire qu'il était un terroriste.
Come? Ora spiego come.
Come?
Ha organizzato. La mafia ha ucciso Peppino.
La mafia il a tué Peppino.
Lo hanno preso, lo hanno sequestrato.
Ils l'ont pris.
Lo hanno imbottito di tritolo.
Ils lui ont mis du tritolo, de l'esplosive autour de son corps.
Lo hanno posto sui binari della ferrovia.
Ils l'ont mis sur le chemin de fer.
Lo hanno fatto saltare in aria.
Et l'ont fait exploser.
Nel tentativo appunto di fare passare la notizia sui giornali come un terrorista che abbia preparato, cioè un che è morto un terrorista mentre stava preparando un attentato.
Dans le tentative de faire passer chez les médias que soit comme un terroriste qui était en train de préparer un attentat pour le tronc et il a eu un accident.
Esatto, e questo è successo proprio il giorno in cui le Brigate Rosse in Italia hanno dimostrato il suo punto, il suo apice, il suo punto di forza. Quando hanno ucciso, hanno fatto trovare il corpo di Aldo Moro.
E c'était le même jour où les Brigades Rouges à Rome, ils ont montré leur grande force et ils sont dit qu'ils avaient tué Moreau, le député de la démocratie chrétienne, et ils ont montré son corps.
Perciò le due cose stavano bene assieme.
Donc les deux événements se sont mêlés.
Et i giornali di tutta Italia, infatti, parlavano momentaneamente, subito, di un terrorista che morto mentre stava preparando la bomba.
Et enfin, tous les médias, les journaux, ils ont parlé, ils ont dit qu'un terroriste, il est mort, en essayant de préparer un attentat.
Quando i carabinieri hanno interrogato me,
mais au moment où les carabiniers ils m'ont interrogé,
non mi chiedevano altro che non mi parlavano altro che delle Brigate Rosse.
Ils me parlaient que des Brigades Rouges.
Mi dicevano se io facevo parte delle Brigate Rosse.
Ils me demandaient si moi je faisais partie des Brigades Rouges.
Se mio fratello faceva pure parte delle Brigate Rosse.
Et si mon frère Peppino il faisait partie des Brigades Rouges.
Non capisco proprio perché si sono ostinati in tutti i modi di pilotare le indagini soltanto nei confronti del terrorismo.
Et après je vois pas pourquoi ils se sont orientés à piloter l'enquête vers la piste terroriste.
Le indagini dopo la morte di Peppino le abbiamo svolte noi.
L'enquête après la mort de Peppino c'est nous qu'on l'a fait.
Abbiamo raccolto i resti umani di Peppino.
On a raccogli les restes humains de Peppino.
E li abbiamo forniti, li abbiamo dati alla magistratura appunto per sviluppare indagini in una direzione diversa.
E on les a donné au juge pour développer l'enquête vers une direction différente.
In un non casolare vicino abbiamo trovato alcune macchie di sangue.
Dans une maison à côté, on a trouvé des taches de sang.
Abbiamo preso queste macchie, cioè che erano già queste pietre unte dalle macchie di sangue, li abbiamo date alla magistratura.
E on a pris ces morceaux de terre qui étaient avec le sang de Peppino et on les a donné au juge.
Proprio da questo poi successivamente in ritardo dopo 9 mesi l'inchiesta procede in direzione dell'attentato mafioso.
Grâce à ça, l'enquête après 9 mois, il a changé de direction et il s'est dirigé vers une enquête contre la mafia.
Dimostra con chiarezza che la mafia ha avuto grossi legami all'interno delle istituzioni.
Et tout ça il montre clairement que la mafia il a eu des aides, des liens à l'intérieur des institutions.
Infatti questa inchiesta poi dopo che è stata formalizzata per omicidio contro ignoti è stata assegnata a un giudice.
Et cette enquête en fait elle a été assignée à un juge.
E questo giudice si chiama Signorino.
Et ce juge là il s'appelle Signorino.
Che dopo, cioè questo Signorino non credeva che Peppino momentaneamente che Peppino fosse stato ucciso dalla mafia.
Ce juge là, Signorino, il croyait pas au début che Peppino avait été tué par la mafia.
È stato un suo superiore.
C'était un supérieur à lui.
Procuratore capo della Repubblica.
Che è stato il procureur en chef.
Gaetano Costa.
Gaetano Costa.
Che successivamente è stato ucciso poi dalla mafia.
Qui a été tué après.
Che si è imposto contro questo giudice,
qui s'est imposé contre le premier juge Signorino,
a fare formalizzare l'inchiesta,
pour faire formaliser l'enquête,
per omicidio di mafia,
pour un homicide commis par la mafia, alors qu'avant c'est écrit homicide commis par inconnu.
Questo primo giudice di cui parlavo io, Signorino,
ce premier juge dont je parlais tout à l'heure, Signorino,
dopo alcuni anni, molti anni,
après plusieurs années,
si è suicidato,
il s'est tué,
perché è stato accusato,
parce qu'il a été accusé,
di collusione con la mafia,
et connivence avec la mafia.
Dunque, ancora non abbiamo finito.
Et on n'a pas encore fini.
Questa inchiesta poi viene data a un altro giudice.
Cette enquête après donc elle vient elle est donnée à un autre juge.
Che si chiama Giorgio Chinnici, che si chiamava Giorgio Chinnici.
Chi s'appelait Giorgio Chinnici.
Questo giudice è arrivato più volte alla verità.
Ce juge il est arrivé plusieurs fois à la vérité.
Però purtroppo anche lui è stato ucciso poi dalla mafia.
Mais malheureusement lui aussi a été tué par la mafia.
Sì. Successivamente questa inchiesta viene data ancora ad un altro giudice dopo che è morto Chinnici.
Après la mort de Chinnici, celui-là, l'enquête l'est donnée ancora a un altro giudice.
E questo giudice si chiama Caponnetto, Antonino Caponnetto.
E ce giudice-là s'appelle Antonino Caponnetto.
Lui purtroppo è stato costretto a cedere.
Lui a été obligé à céder.
Perché era già vecchio come.
Parce qu'il était déjà vieux pour son métier. Il allait à la retraite.
E l'inchiesta lui la chiude come omicidio di mafia.
E l'enquête donc lui la ferme come il a conclu
momentaneamente.
Il a conclu momentaneamente perché lui il doit quitter son travail come assassinat par la mafia.
Non abbiamo ancora finito.
E non ha pas encore fini.
Allora il giudice Falcone non convinto riapre di nuovo l'inchiesta.
E donc le juge Falcone, le grand juge antimafia, tué en 92,
Giovanni Falcone,
Giovanni Falcone, il rouvre l'enquête parce qu'il est pas convaincu.
Purtroppo Falcone è costretto a cedere l'inchiesta perché viene trasferito a Roma agli affari penali.
E malheureusement Falcone il est obligé à donner l'enquête à quelqu'un d'autre parce que lui-même il est transféré à Rome.
Poi l'inchiesta viene chiusa e non si sa più nulla.
E donc l'enquête elle est fermée et voilà, et là l'histoire finit et on connaît pas les coupables.
Le mafiosi chiamava ognuno con un nome. Uno gioca, uno lato, uno trascina cucina. Li chiamava assassini, li diceva di la sana. Tutti questi li vedevano da Democrazia Cristiana. Cristo era Peppino, lo suo nome verità. Tanta gente lo stimava per la sua lealtà. Dalla radio parlava e l'entrallazza e svelava un palazzo a 5 piani, villaggio per Roccane, tanta gente s'attentava, onda pazza ci rireva, ad ottano si ognava la starina.
Sono dei vieille cassette un peu
aujourd'hui entendre ceux qui ont chanté les exploits, si on peut dire, de ce héros, parce que c'en est un. On a, vous avez compris que c'est pas seulement une lutte contre le crime organisé, il y a la révolte contre le père, ça tourne très vite à la tragédie grecque. Dans cette Sicile, il a été établi que le crime était un crime mafieux, mais il n'y a eu aucune inculpation plus précise pour l'instant dans cette affaire depuis 1978. Il faut rappeler comment la classe politique a toujours été complice de la mafia, en assurant l'impunité en échange de votes ou d'autres choses. Alors là, un petit tour dans cette ville de Tunisie. Pepino avait évidemment des copains, beaucoup dans cette ville. Que sont-ils devenus ? Nous nous sommes tant aimés, vous vous souvenez ? Alors on a fait avec Giovanni, avec le frère, un petit tour, et puis on s'est retrouvé dans cette pizzeria. Oui, une pizzeria avec un pizzaiolo et qui était un copain, un ami de lutte et un frangin, un frère de Giuseppe, et qui est celui qui, sur la photo qui reste au mur de la maison de la maman, qui est celui qui tenait le grand drapeau où on se promettait de lutter à jamais, que quoi qu'il arrive, le combat continuerait.
Moi, j'ai vu les photos des funérailles de Pepino et j'ai vu que c'était vous qui teniez la banderole.
Si.
Redites-moi ce que vous aviez écrit sur la banderole.
Con le idee, con il coraggio di Pepino, noi continueremo.
On continuera avec les idées, le courage de Pepino.
Est-ce que tu as continué?
Continuiamo e appoggiamo, diciamo, qualcuno che può fare qualche cosa, ma io ho l'impressione che sia una lotta, non ci muoviamo a vento.
On appuie les gens qui peuvent faire quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est une lutte contre les moulins à vent.
Abbiamo visto un sacco di gente è morta, purtroppo non è cambiato niente, che la mafia è una multinazionale ormai.
On a vu mourir beaucoup de monde, on voit
la mafia non è solo la Opara o la Coppola Storta, ma sono i computer, le grandi...
La mafia è devenue internazionale désormais, la mafia n'è più la Lupara, il pistolet le bonnet de biais, c'est autre chose, ce sont les ordinateurs, c'est...
Est-ce que tu sens une pression sur toi?
Si, sempre.
Oui, toujours.
Prima o poi verrà qualcuno a chiedere qualcosa.
Tôt ou tard, quelqu'un arriverà a me demander quelque chose.
Quoi?
E cosa?
Insomma, magari farà lavorare qualcuno, adesso pagare qualche cosa.
De faire travailler quelqu'un ici, par exemple, ou de payer quelque chose.
O impormi di comprare certe cose, insomma.
O sino d'acheter quelque chose.
Uh-huh. C'è diversi modi di pagare il pizzo, non è che tutto per forza con i soldi, ma importi di imporre di comprare un tipo di merce, una certa ditta o...
Il y a différentes façons d'être racketté, par exemple, demander de se fournir esprès forcément chez quelqu'un, ou sinon de faire travailler quelqu'un ici.
Una cosa pulita, insomma, senza...
Une chose propre comme ça.
C'est-à-dire que si ton affaire se développe et si ça devient vraiment prospère, là tu les auras sur le dos.
Certo. Però sono all'inizio, insomma.
Mais non, ancora... je suis qu'au début, donc.
Ce ne vorrebbero non uno, ma centinaia di Pepino.
Il en faudrait une centaine de gens con Pepino.
E pourquoi il n'y en a plus?
Non lo sappiamo questo, perché non ce ne sono più.
On ne sait pas pourquoi.
Grazie signore, veramente è stata una...
Questo è tuo, di quello purtroppo.
Grazie.
Non ce n'ho altro, mi dispiace.
Molto forte venire qua a sentire la storia da lei stessa. Io ho letto la storia,
sì.
Però venire qua e sentire le sue parole è un'altra cosa.
Sì.
Un'altra cosa.
No, parlerò apertamente, non ho paura. Che vanno a fare? Ma ammazzano? No. Non ci credo che mi ammazzano, che dici?
Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Ils peuvent me tuer? Ouais. Je crois pas qu'ils vont me tuer.
Ils vont m'ammasser. Ouais. 80 ans de faire.
J'ai 80 ans, dans quelques jours. Grazie, signora.
Grazie.
Bella, ritrovata.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata il risaio mi tocca andare. E fra gli insetti le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fa', oh mamma mia, che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco.
Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Daniel Mermet pour l'émission Là-bas si j'y suis. À voir Ichan Topassi, Les 100 pas, un film de Marco Tullio Giordana sur Pepino in Pastato. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui Sophie Moreno et Antoine Viossa. Cette émission a été réalisée par Antoine Chao et Yann Chouquet. Le chef du répondeur c'est Christophe Imbert. Vous pouvez laisser tous vos messages sur le répondeur de l'émission au 01 56 40 37 37. Réclame.